おかしい、おかしい。おかしい。
Je vous invite à suivre avant l'émission Dialogue entre Congolais avec la langue de la présentation.
Bonsoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a le week-end dernier condamné fermement les viols collectifs perpétrés au mois de juillet et août 2010 dans l'est de la RDC et demande au gouvernement congolais de veiller à ce que les auteurs de ces crimes fassent très rapidement l'objet, je cite, des poursuites impartiales. Comment analyser la réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies et quel bilan dresser de la lutte contre les viols en RDC participe à cette émission? Maintenant, de Mounoubaï, porte-parole de la MONUSCO. Monsieur Mounoubaï, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Achille Kabongo, conseiller du ministre de la Justice et Droits Humains et coordonnateur adjoint de la cellule technique de lutte contre la corruption au cabinet du ministre. Maître Achille Kabongo, bonsoir.
Bonsoir.
Madame Bernadette Mouongo, coordonnatrice de l'ONG dénommée Victime des Conflits, une ONG de défense des droits de la femme basée à Goma au Nord Kivu. Madame Mouongo, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, nous les avons déjà. Boni Mwanangi est de Bounia en province orientale. Je trouve ambiguë la position du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi souffler le feu et le froid au lieu de concrétiser le mandat de la MONUSCO pour protéger réellement les populations? Je pense que les Congolais doivent apprendre à bien s'assumer. Gentil de Kinshasa, sans nul doute, dans ce dossier, le gouvernement congolais et le Conseil de sécurité vont se limiter à se résister la responsabilité et à traiter les conséquences au lieu de s'attaquer aux véritables causes comme d'habitude. Merci de nous suivre partout au monde sur RadioCafé.net. Bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Avant d'aborder le thème du jour, vous le savez, la communauté internationale célèbre ce 21 septembre la Journée internationale de la paix, jeunesse pour la paix et le développement. Investir dans la jeunesse et garantir l'avenir de la nation, tel est le thème retenu pour la Journée internationale de la paix 2010. Au cours de la célébration de cette journée ce mardi à Kinshasa, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a invité la jeunesse congolaise à s'unir au gouvernement, à la MONUSCO et autres ONG afin de lutter pour l'instauration de la paix. Je vais tous vous demander un bref commentaire, Mademoiselle Mounoubaï, par rapport à cette journée de la paix.
C'est une journée instituée par par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'agit de lancer un appel à la communauté internationale, de leur rappeler ce que c'est que la paix et de leur demander de faire un effort une fois, un jour dans l'année, de s'arrêter, d'observer la paix, de réfléchir sur la paix et de voir ce que vaut une journée totale de paix dans un pays.
Impression Kabongo, par rapport à cette journée de la paix.
Par rapport à cette journée de la paix, je dirais tout simplement ceci. La paix n'est pas un vrai mot. La paix n'existe pas dans la prononciation, c'est-à-dire dans la bouche, dans les paroles ou dans les discours. À partir du moment que les armes de calibre léger sont vendues à travers l'Afrique et la République démocratique du Congo et circulent impunément, il ne peut pas y avoir de paix. À partir du moment que la population congolaise ne mange pas à sa faim, il ne peut pas y avoir de paix. À partir du moment que sur le plan international existe cette détérioration des termes de l'échange, les matières premières africaines sont vendues à des vils prix, tandis que les produits finis nous sont vendus très chers, il ne peut pas y avoir de paix. C'est-à-dire, nous disons ceci, il y aura la paix lorsque un certain nombre de paramètres seront respectés sur le plan international. Comment le Congo investira-t-il dans la jeunesse à partir du moment qu'il y a des paramètres qui ne permettent pas à ce que cette jeunesse évolue? Elle est confrontée à des conflits armés. La jeunesse congolaise ne sait pas d'où viennent ces conflits armés-là.
Merci, M. Bachir Kabongo. Madame Bernadette Mouongo, une réaction également par rapport à cette journée internationale de la paix.
Oui, merci beaucoup. Pour nous, la journée était vraiment une réussite puisqu'il s'agissait de la marche de la paix qui prépare la marche mondiale de la paix qui se tiendra à Bukavu au mois d'octobre du 13 au 17 octobre. Alors c'est une réussite car toutes les couches sociales ont participé à celle-ci. Et nous avons reçu une délégation de femmes du Burundi et du Rwanda qui ont mis une bougie allumée comme symbole de la paix et qui a été remise au vice-gouverneur qui a représenté son excellence, monsieur le gouverneur de province. Pour moi, c'est très significatif car cela symbolise l'union de la paix dans la région du Grand Lac. Et après, nous avons planté des arbres comme souvenir de cette journée-là.
Merci beaucoup, madame. Revenons à notre thème de ce jour. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a le week-end dernier condamné fermement les viols collectifs perpétrés au mois de juillet et août dernier dans l'est de la RDC. Il se déclare prêt à envisager des mesures ciblées contre les auteurs de ces crimes. Dans une déclaration lue vendredi dernier par son président pour le mois de septembre, Ertugrul Apakam, au nom des autres membres du Conseil, le Conseil de sécurité de l'ONU demande au gouvernement congolais de veiller à ce que les auteurs de ces crimes fassent très rapidement l'objet, je cite, des poursuites impartiales. Depuis New York, les détails avec Martial Assemé de la Radio des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité insiste sur la responsabilité première du gouvernement de la République démocratique du Congo d'assurer la sécurité sur son territoire et la protection des civils conformément aux principes des droits humains et du droit international humanitaire. Le 15, on appelle donc aux autorités congolaises pour condamner ces atrocités et apporter l'assistance nécessaire aux victimes d'abus sexuels. Prônant l'impunité zéro, les membres du Conseil ont aussi pressé le gouvernement de la RDC à identifier les auteurs des violations des droits humains et à les traduire en justice. Le Conseil de sécurité rappelle que la lutte contre l'impunité est partie intégrante de la réforme urgente du secteur de la sécurité. Le rôle de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC est également mis en lumière dans cette déclaration. Les 15 suggèrent à la MONUSCO d'améliorer ses rapports avec les communautés pour renforcer la confiance et mieux faire comprendre aux populations son mandat et ses activités. Le Conseil salue donc le lancement d'une campagne de sensibilisation par la mission onusienne en collaboration avec Radio Okapi et dont le but est d'encourager les victimes de violences sexuelles à se faire connaître afin de recevoir le traitement adéquat et l'assistance juridique. Les membres du Conseil de sécurité ont par ailleurs réaffirmé leur volonté d'éliminer toute forme de violence contre les femmes et les enfants en période de conflit armé.
Manoj Moudoubaï, porte-parole de la MONUSCO, ce type de réaction de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est-ce pas du déjà entendu?
Déjà entendu, si vous voulez dire que cela rentre dans la pratique, dans la ligne directe de la façon dont le Conseil de sécurité travaille, oui. Comme vous le savez, M. Atul Karé, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, était ici. Il est reparti à New York et il a fait son rapport au Conseil de sécurité. Et à l'époque, il a été très clair. Il a fait une déclaration très courageuse qui a déjà, d'ailleurs été reprise par la plupart des médias ici pour dire que, oui, quelque part, nos hommes sur le terrain n'ont pas été en mesure d'accomplir la mission qui leur est confiée. Par conséquent, nous n'allons pas aller par quatre chemins. Nous disons, nous acceptons le blâme et nous disons, nous avons échoué. Maintenant, cette déclaration du président du Conseil de sécurité est tout à fait simple. C'est maintenant que cette vague d'indignation est passée, que maintenant on doit réfléchir posément sur ce qu'on doit faire dans le futur, il faut que tous les acteurs qui ont une responsabilité dans la protection de la population civile puissent se mettre ensemble et discuter sur les voies et moyens pour assurer cette sécurité. Et ici, disons, il repartit simplement les rôles. Il définit les rôles pour chacun de ces acteurs.
Alors, quand le Conseil de sécurité se déclare prêt à envisager des mesures ciblées contre les auteurs de ces crimes, comment compte-il procéder concrètement?
Donc, vous savez, il y a déjà eu un certain nombre, je dirais, de propositions qui ont été faites concernant, par exemple, l'interdiction de voyager de ces personnes, la saisie de leurs biens et avoir à l'extérieur si on les connaît. Ce sont des mesures traditionnelles que les Nations Unies prennent en pareille circonstance. Il n'y a rien de nouveau, simplement qu'on demande
d'élever le niveau des sanctions contre ces personnes.
Il y a cet auditeur hier à Guémanga, il a voulu en province orientale, qui s'adresse à vous, Mademoiselle de Mounouba. Il dit, la simple condamnation par le Conseil de sécurité conduira-t-elle à l'arrestation des auteurs de ces viols dans une région où pullulent les groupes armés incontrôlés?
Ben, justement, vous savez, la République démocratique du Congo n'est pas un pays sous tutelle. Il y a des institutions légales qui existent dans ce pays. C'est un travail qui doit se faire, je dirais, en collaboration avec les institutions et le gouvernement de ce pays. Les Nations Unies ou la MONUSCO ne vont pas venir dans ce pays pour arrêter les gens.
Alors, vous dites que la RDC n'est pas sous tutelle hein, des Nations Unies, mais il y a par contre certains observateurs qui pensent que par cette déclaration, le Conseil de sécurité voudrait un peu faire payer hein, au gouvernement congolais ses élans souverainistes en le prenant par son tendon d'Achille, qui est la sécurité.
Non, je ne sais pas. Il ne faut pas que les gens soient sur la défensive. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est le partenaire des Nations Unies dans cette histoire de lutte contre les violences sexuelles à grande échelle qui se perpétuent en train d'être fait dans ce pays-là. Donc c'est un partenaire qui parle à un autre partenaire. Il n'est pas question de dire qu'on blâme. On ne blâme pas. Simplement que c'est une déclaration qui a été faite. Ce sont des à un partenaire, qu'on met un partenaire devant ses responsabilités, parce que c'est vrai qu'ensemble, qu'on pourrait arriver à des résultats positifs en ce qui concerne la population.
Maître Achille Kabongo, je rappelle que vous êtes conseiller du ministre de la Justice et des Droits Humains et coordonnateur adjoint de la cellule technique de lutte contre la corruption au même ministère. Comment vous réagissez par rapport à cette déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies?
Ici, je vais devoir réagir pour essayer un peu de défendre la position du gouvernement congolais, parce que j'ai réagi en tant que conseiller du ministre de la Justice et coordonnateur adjoint de la cellule technique de lutte contre la corruption du cabinet du ministre de la Justice. J'aimerais dire ceci. Nous disons ceci au niveau du gouvernement, trop c'est un peu trop.
C'est-à-dire
ceci. On a renouvelé plusieurs fois le mandat de la MONUC en République démocratique du Congo. La MONUC est devenue MONUSCO, c'est-à-dire mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Le laboratoire du ministre de la Justice, qui dirige le ministre Luzolo Lomendilessa, nous avons observé ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo et nous avons analysé cela pertinemment.
Et quels sont les résultats?
Regardez bien, monsieur Alain. Les exactions se sont commises entre le 30 juillet 2010 et le 2 août 2010, soit pendant 4 jours. Et ici, la MONUSCO s'est contentée de condamner de façon impuissante les viols massifs perpétrés dans le territoire de Walikale, dans le Nord Kivu, pendant ces 4 jours, c'est-à-dire entre le 30 juillet et le 2 août. Ce qui est grave et inadmissible, c'est que des viols massifs ont été commis par des rebelles hutu-rwandais de FDLR et par soi-disant des miliciens maïmaï, et ces viols ont été commis, retenez-le, à moins de 30 km d'une base de la MONUSCO où sont stationnés 80 casques bleus indiens. C'est à moins de 30 km que ces viols ont été commis. Vous voyez. Et à la fin du mois d'août 2010, la MONUSCO a même été indexée et accusée par les organisations humanitaires pour sa passivité et surtout pour son inaction. Ce qui étonne, ce sont les justifications sans fondement de la MONUSCO qui osent affirmer avoir été mises au courant tardivement. La MONUSCO a réagi en disant, en prétendant que ce n'est qu'en date du 12 août, prenez, 12 août, du 2 août au 12 août, soit 10 jours après qu'elle aurait été prévenue. Alors, vous comprenez? Alors, le standard. Non, je vous dis.
Résumez-vous.
Je vais résumer.
Vous avez la parole.
Le scandale éclate quand? C'est lorsque le New York Times, un quotidien américain, affirme détenir une correspondance des Nations Unies qui prouve que l'ONU a été bel et bien mise au courant
que ces viols massifs ont été perpétrés en date du 30 juillet. Alors nous disons ceci, et le New York Times précise qu'il y avait un email qui a été envoyé par le bureau des opérations humanitaires de la MONUSCO dans l'est de la République. Comment comprendre, M. Alain Hirongo, que 80 pastes bleus stationnés à moins de 30 km du lieu où 200 femmes ont été violées n'ont pas intervenu, mais on a des preuves que.
Alors,
il y a une correspondance interne qui a été.
Pour vous résumer, qu'est-ce que vous dites sur ces éléments que vous avez avancés?
Tous ces éléments, nous disons ceci. La MONUSCO a un mandat en République démocratique du Congo et partenaire du gouvernement congolais. Il faudrait respecter sa mission d'intervention de la paix, sa mission d'interposition. Les Congolais ne peuvent pas commencer à se faire violer comme ça. Et les éléments de la MONUSCO sont là, ils n'interviennent pas.
Mais le gouvernement a aussi son armée, qui a sa responsabilité.
Outre la responsabilité du gouvernement, nous disons qu'il y a quand même une mission d'interposition de la MONUSCO, il y a une mission quand même de la paix. La MONUSCO peut intervenir, mais à l'endroit, c'était à moins de 30 km que ces actions étaient commises. Monsieur Madino Diomonobaye, qui est ici, l'a reconnu qu'il y avait au moins un viol de viol massif perpétré sur 200 femmes. Et il a avancé que c'était dans un rayon de 20 km.
Voilà, il va vous répondre, il est dans ce studio. Madame Bernadette Mouongo, vous êtes coordonnatrice de l'ONG dénommée Femmes victimes des conflits, ONG de défense des droits de la femme basée à Goma au Nord Kivu. Comment vous avez accueilli cette déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies?
Je tiens d'abord à féliciter le secrétaire général des Nations Unies pour son indignation vis-à-vis de la situation des viols et des violences à l'est de notre pays. Enfin, il a demandé au gouvernement congolais de poursuivre les auteurs de ces actions pour leur jugement et leur condamnation. Ce qu'ils doivent faire. Nous sommes du même avis avec le secrétaire général, indigné de cette situation de sécurité. Pour ce cas de viol, pour moi, c'est une destruction méchante de notre société, comme elle vise en particulier les femmes. Lorsqu'on est femme violée dans le territoire de Walikale, le sens est différent. Il faut que ces responsables de ces actes ignobles soient punis et que la justice soit rendue. Et la MONUSCO, je crois qu'elle est exagérée quelque part parce qu'il est toujours observateur au lieu d'être intervenant.
Alors, madame, vous dites que la MONUSCO reste passive, mais il y a des auditeurs ou même des observateurs qui pensent que cette réaction du Conseil de sécurité, c'est entre parenthèses, juste des paroles un peu en l'air, entre guillemets, allais-je dire. Madame Mouongo?
Oui, je vous écoute. La MONUSCO a été toujours observateur. La MONUSCO a été toujours observateur, c'est ce que je dis. Donc, en tant que problème de ville comme ça, la MONUSCO peut intervenir. Si ne laisse pas la population entrer de ce film comme ça, il y a un instrument de rapport.
Voilà.
Aujourd'hui, les femmes continuent à être victimes depuis bientôt des décennies dans notre pays. Et depuis 1993, que les femmes du Congo, à l'est du Congo, sont victimes de viols et de violences. Suite au conflit interethnique, suite aux guerres. Mais aujourd'hui, sans succès, ce sont des rapports, des discours qui me suivent, aucune mesure d'accompagnement.
Voilà, maintenant, M. Mouloubaï, vous venez de suivre Maître Kabongo et Mme Mouongo. Comment vous réagissez à leurs observations?
Nous allons d'abord dépassionner le débat et être un peu objectifs. Maître a parlé tout à l'heure de 80 soldats. Excusez-moi, que la MONUSCO aurait dans ce secteur. Premièrement, c'est un secteur qui fait à peu près, si on prend tous les villages affectés, 100 km sur 40. Nous parlons donc d'une superficie d'à peu près 4000 km². Nous posons une question puisque nous disons que nous avons 80 hommes qui étaient dans ce secteur. Je pense qu'il y avait aussi des éléments de force de l'ordre et de la force nationale qui étaient là. C'est un travail si, admettons, que la MONUSCO n'était pas au courant de ces informations. Est-ce que les forces de l'ordre et les forces nationales qui étaient dans ce secteur étaient au courant? Si elles ne sont pas au courant, pourquoi ne sont-elles pas au courant? Et si elles sont au courant, est-ce qu'elles ont contacté leur partenaire que sont la MONUSCO pour des opérations ensemble. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire de communication, de e-mail dont New York Times aurait eu une copie, je pense que l'histoire a été clarifiée depuis lors. L'ambassadeur des Nations Unies, des États-Unis aux Nations Unies, Mme Rice, l'a dit clairement. Ce n'est pas les forces des Nations Unies qui commettent ces exactions-là. Il s'agit des forces qui sont étrangères et des forces qui sont congolaises. Les forces des Nations Unies, bien entendu, ont une responsabilité en ce qui concerne qu'elles doivent assurer la protection de la population civile. Nous parlons de 242 cas, entre 240 et 300 cas de viols qui ont été commis en 4 jours dans une superficie de 4000 km² dans 21 villages pendant 4 jours. Faisons les mathématiques. Il est vrai qu'un seul viol est un viol de trop. Mais ce n'est pas comme s'il y a eu un vol massif dans un seul endroit. Nous sommes passés à côté et nous l'avons vu et nous n'avons pas intervenu. Ce n'est pas le cas.
Alors, je reprends la réaction de Jean-Pi de Kinshasa que j'ai lu en début d'émission à Mademoiselle Jamounoubaï. Sans nul doute, dans ce dossier, le gouvernement congolais et le Conseil de sécurité vont se limiter à se rejeter la responsabilité et à traiter les conséquences au lieu de s'attaquer aux véritables causes comme d'habitude. C'est un peu à ça qu'on assiste maintenant.
Mais vous avez vu la réaction d'abord, tout de suite, de la MONUSCO a été de monter l'opération Shop Window, qui a consisté à occuper militairement le terrain, à faire reculer les groupes armés, à rassurer la population et à mettre en place un système de protection, beaucoup plus proche de la population et aussi d'améliorer les communications avec les populations concernées. Ça va beaucoup plus que des paroles. Ce sont des actes réels qui ont été posés et aujourd'hui, nous avons les résultats sur le terrain.
Et visiblement, le partenaire gouvernement ne semble pas partager les mêmes sentiments.
J'ai donné des faits vérifiables. Il faut maintenant l'apprécier d'une façon objective.
Maître Assine Kabongo, vous allez réagir au propos de Mademoiselle Jamounoubaï. Il y a cet autre auditeur, Raymond Kasangala, qui a dit ça. Curieusement, nous nous posons cette question entre le gouvernement de la RDC et la MONUSCO, à qui revient de droit en première position le rôle de protection des biens et des personnes. Nous voulons la restauration d'un état de droit fort, capable de mettre fin à ces atrocités, arrêter les coupables et les punir de manière exemplaire.
Je dis ceci à cet auditeur. La responsabilité revient de droit au gouvernement congolais, je ne le nie pas. Mais la MONUSCO est un partenaire. Cela a même changé de nom. Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Mais il faut assumer cette mission de stabilisation correctement sur terrain et éviter de faire des abstentions coupables. C'est ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo déplore. Regardez, M. Alain Hurong, nous avons un chef de l'État qui n'a pas horreur de l'avion, qui se promène partout lui-même, descendant sur terrain. J'ai vu le président Joseph Kabila en image sur la RTNC aujourd'hui en train de photographier des éléphants, un troupeau d'éléphants, dans le parc Virunga. Jamais en République démocratique du Congo, nous n'avons eu un chef de l'État qui descend aussi bas, qui développe une politique de proximité avec la population. Mais cette politique de proximité doit s'accompagner avec une bonne sécurité. Ici, je ne suis pas d'accord avec le porte-parole de la MONUSCO, Mademoiselle Jamounoubaï, quand il avance des arguments qui se réfugient derrière un problème de communication. Parce que l'email est sorti. Cet email est sorti disant, par exemple, que à 52 km de Walikale, la ville de Mpifo était déjà tombée entre les mains des FDLR. Il y a eu des consignes qui ont été données aux humanitaires qui étaient à tous les humanitaires qui opéraient dans le secteur de ne pas se rendre en Mpifo. Et M. Mademoiselle Jamounoubaï le sait. Et quelque part, à l'intérieur même du bureau des opérations humanitaires de la MONUSCO qui opère dans l'est de la République, il y a eu des messages contradictoires. Ici, M. Madelon, je nous dis que s'ils avaient eu l'information et qu'ils n'avaient pas véhiculé à l'endroit de comment des éléments de la police nationale qui assure aussi la sécurité marocaine, donc ils ne l'auraient pas su. Mais comment comprendre qu'à l'intérieur même, lui-même qui avance cet argument, a dans ses adresses prétendu, s'il vous plaît, monsieur Nairon, a prétendu que ce message n'était pas adressé en premier lieu à la MONUSCO, mais qu'il était adressé peut-être à d'autres agences onusiennes. Nous disons tout simplement ceci, que nous sommes partenaires avec la MONUSCO sur terrain, et en tant que partenaire, nous devons coopérer pour la réalisation de la sécurité. Et ici, nous voyons ceci. S'il y a une information que la MONUSCO détient et qu'elle a des engins et un dispositif qui est beaucoup plus outillé que celui de la République démocratique du Congo, la coopération s'impose, elle doit coopérer. Et ce qui a été fait ici, vous remarquerez que la MONUSCO savait, le même 30 juillet, que le viol avait été opéré dans la ville d'Empi, pour 52 km de Walikale, pour 200 ans, et que les éléments, les 80 casques bleus indiens, à moins de 30 km de là, sont abstenus d'intervenir.
Mais il faut
le reconnaître.
Maître Kabongo, finalement, dans ce ping-pong auquel on assiste entre les deux partenaires, MONUSCO, gouvernement, que gagne la population qui est censée être protégée par les deux partenaires que vous êtes?
Alors, nous disons ceci. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de se déployer sur terrain, déploie des éléments sur terrain pour assurer cette garde-là. Mais nous le faisons en collaboration avec la MONUSCO. Monsieur Alain Irung, n'esquivons pas le problème ici. L'information a été bien véhiculée. Parce que le journal, le New York Times, le quotidien américain, c'est un quotidien sérieux. C'est une correspondance interne des Nations Unies qui a été interceptée et qui prouve que l'information était bel et bien arrivée. Mais c'est la MONUSCO qui s'est abstenue d'informer les éléments de la police nationale pour qu'elle puisse aussi alors pour intervenir. C'est ça le problème. C'est ce qui déplore le gouvernement congolais.
Merci, maître. Madame Bernadette Mungo, il y a cet auditeur, Mapenzi Medi de l'université de Kinshasa, qui dit le gouvernement congolais et la communauté internationale ont échoué dans leur mission de sécuriser la population de l'est du pays. Ils arrêtent de se rejeter les responsabilités du viol massif des femmes et enfants à l'est, alors que cette population fait déjà des lourds tributs suite à cette guerre.
Oui, merci, c'est vrai, la sécurisation des populations n'est pas encore effective. Le gouvernement congolais a pris des mesures, le chef de l'État, le président Joseph Kabila, a bien pris une décision, disant qu'on cesse de stater les minéraux dans les zones de Walikale, puisque ça fait des zones d'ombre. Les viols et les violences, ce sont des conséquences de situations qui se créent par des gens. Donc, le gouvernement n'a pas encore tort.
Madame Mungo.
Il a fait tort, hein.
Voilà, décidément, on a quelques problèmes de liaison avec votre ligne. Êtes-vous du même avis que cet auditeur que et le gouvernement et la communauté internationale ont échoué?
Ils n'ont pas encore échoué puisque c'est tout un processus.
Ah, voilà, décidément, il y a quelques problèmes de liaison. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Quel bilan dresser de la lutte contre les viols en RDC? Écoutons la réponse avec vous, Kelly Koutey.
La constitution de la RDC condamne les violences sexuelles en disant qu'elles sont un crime contre l'humanité et qu'elles seront par conséquent sévèrement punies par la loi. C'est plus précisément l'article 15 de cette loi suprême qui en fait état. Plusieurs observateurs pensent que cette disposition n'est pas du tout appliquée, affirmation que rejettent certaines sources du gouvernement congolais pour qui plusieurs avancées sont à signaler dans ce domaine, notamment l'organisation des ateliers de travail, des colloques et d'autres formations destinées non seulement à dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes et aux hommes filles, mais aussi à faire des plaidoyers en faveur de ces victimes de violations des droits de l'homme. Au-delà des formations et autres campagnes de sensibilisation, certains analystes relèvent des procès contre certains auteurs de violences sexuelles, surtout à l'est du pays. Par exemple, à Rutshuru, au Nord Kivu, la cour militaire avait condamné deux officiers et un colonel en fuite aux lourdes peines pour crimes contre l'humanité. Même fait dans la province orientale où les procès tant attendus des miliciens Maïmaï qui ont violé 137 femmes avaient eu lieu. À tous ces efforts, il faut ajouter la politique de tolérance zéro prônée par le gouvernement. Certains observateurs et certaines ONG internationales estiment que le gouvernement devrait affirmer sa volonté en mettant réellement fin à l'impunité.
Madame Bernadette Mungo, je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'ONG dénommée Femmes victimes des conflits, ONG de défense des droits de l'homme basée à Goma, au Nord Kivu. Madame, vous êtes en ligne, est-ce que vous nous entendez mieux?
Je vous entends. mort.
Voilà, là c'est nettement mieux. Alors madame, quel bilan vous pouvez dresser de la lutte contre les violences sexuelles et les viols en RDC?
En fait, dans notre pays, disons, le gouvernement fait son travail, puisqu'il essaie quand même à travers des services d'arrêter les auteurs de viols. Nous avons des commissions que nous avons créées au niveau de la police, au niveau des FADC qui s'occupent de ces problèmes-là. Sauf que tous les problèmes qui se posent à travers les individus qui ont un blocage par les acteurs de viol ne passent jamais les nuits dans les prisons. Ils donnent des corrections à des policiers qui sont libérés et se moquent des victimes ou des familles des victimes après.
Voilà, Madnoj Mounoubaï, vous êtes porte-parole de la MONUSCO. Quel est votre bilan, vous, par rapport à la lutte contre les violences sexuelles de façon générale en RDC?
Je crois que le problème majeur, si on veut marquer des points dans la lutte contre les violences sexuelles, c'est de s'attaquer à l'impunité. Et je crois que madame qui vient de parler a donné un très bon exemple. Si les gens qui sont arrêtés dans la journée, on les retrouve le soir dans la rue, en train de narguer les victimes, ça veut dire qu'il y a une impunité complète. Et c'est ça le problème. Et justement, dans notre mission de stabilisation, nous essayons de soutenir le gouvernement dans plusieurs secteurs concernant l'extension de l'autorité de l'État, concernant le renforcement de l'État et le renforcement de son système judiciaire. Ça fait partie de notre mission de stabilisation. Bien entendu, tout cela, c'est pour concourir à renforcer la paix en République démocratique du Congo. Mais, en règle générale, je dirais, le problème majeur qui freine des progrès dans la lutte contre les violences sexuelles, c'est justement qu'il n'y a pas de mesures prises contre les auteurs lorsqu'ils sont arrêtés. Il y a une impunité qui continue encore à être à un taux inacceptable. Et il faut s'attaquer à ce problème.
Maître Chilka Bongo, je rappelle que vous êtes conseiller du ministre de la Justice et Droits Humains et coordonnateur adjoint de la cellule technique de la lutte contre la corruption du cabinet du ministre. Quel est votre bilan à vous? Mademoiselle Mounoubaï et Madame Mouongo viennent de relever l'impunité qui est pratiquement le ventre mou de la RDC.
L'impunité est le ventre mou de la RDC, nous le reconnaissons, mais actuellement, il y a un leitmotiv. Nous avons cette politique de tolérance zéro que le cabinet du ministre de la Justice coordonne.
Qui a bloqué à quel résultat?
Nous sommes en train de nous battre. J'ai eu à intervenir sur Radio Capis et nous disons, nous commençons toujours quelque part. Il y a un laboratoire au cabinet du ministre de la Justice qui fonctionne bien. Et vous voyez, même par mes interventions, que nous sommes très payés. Et nous faisons de très bonnes recherches. Alors, j'allais vous dire ceci que la République démocratique du Congo n'a pas encore échoué. Ce que nous demandons avec notre partenaire de la MONUSCO, c'est le respect des accords. Le respect des accords, surtout en ce qui concerne les interventions ponctuelles sur terrain. En ce qui concerne la protection de la population. Ici, il y a eu une défaillance, nous le soulignons, mais nous ne massons pas nos mots. Alors, nous disons ceci. Le bilan, en général, il se présente d'abord, au niveau des lois, très bien, je veux vous dire qu'il y a la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Cette loi a été promulguée par le président Joseph Kabila en date du 20 juillet 2006. Et la caractéristique de la loi est celle-ci, je vous la donne rapidement. La loi se caractérise par le défaut de pertinence de la qualité officielle de l'ordre hiérarchique en matière d'infraction relative aux violences sexuelles. C'est-à-dire, la qualité officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l'exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine. L'ordre hiérarchique, je précise, ou le commandement d'une autorité légitime, civile ou militaire, n'exonère nullement l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité. Alors, je dis ceci, la zone de l'Est est une zone qui a quand même quelques poches d'insécurité. Vous comprenez? Alors, le viol se commet quand? Ce n'est pas dans les endroits où vivent les femmes avec leur mari, c'est lorsque celles-ci se déplacent pour aller au champ, aller chercher du bois,
parfois aller chercher de l'eau. C'est dans des moments de déplacement.
Merci.
Alors il y a des postes d'insécurité, il y a des éléments incontrôlés tels que les FDLR qui s'occupent des femmes là et les viols. Alors
merci.
Il faudrait s'organiser ensemble avec notre partenaire Monusco pour des bonnes interventions sur le terrain et non pas admettre les abstentions coupables qui viennent d'être commises. Ça, non, c'est inadmissible.
Merci, maître. Madame Bernadette Mohongo, maître Kabongo, dit que le bilan se porte très bien sur le plan de la législation. Mais beaucoup d'observateurs ont quand même remarqué que la RDC a beaucoup de lois, mais qui ne sont pas appliquées.
Oui, peut-être c'est une faiblesse du côté de notre gouvernement, bon, c'est vrai.
Madame Mohongo.
Oui.
Vous nous suivez, madame?
Oui, bien sûr.
Voilà, il y a cet auditeur Emmanuelson Barondeza qui dit le bilan de la lutte contre les viols en RDC est très négatif car la volonté politique fait défaut du côté du gouvernement. Madame Mohongo?
Oui, je vous suis. La volonté politique fait défaut. Ben, écoute, il y a des faiblesses partout. On ne peut pas les condamner directement comme ça, mais il y a quand même des travaux. Tout ce que la loi a été élaborée, elle a été adoptée, tout ça, ce sont des travaux que le gouvernement fait. Donc, on ne peut pas les condamner directement comme ça. Puisqu'ils sont dans une position faiblesse suite à l'imposition de la guerre qu'on connaît chez nous. Et les violences et les violences, ce sont des conséquences des situations qui se passent chez nous.
Voilà, mademoiselle Mouloubaï, en dehors des formats de simple formation et autres renforcements des capacités qu'apporte la MONUC la MONUSCO au gouvernement congolais, que faudra-t-il en plus pour renforcer la justice congolaise?
Non, il ne faudrait pas dire de simples formations, parce que ces formations constituent justement à mettre à la disposition du pays des compétences. Et il faut que ceux qui sont les animateurs du système judiciaire aient ces compétences-là. Maintenant, en dehors de ces compétences, une fois que ces hommes sont armés de ces compétences, il y a des mesures d'accompagnement que seul le gouvernement peut prendre. Par exemple, nous disons, si des gens sont arrêtés, il faudrait que c'est la responsabilité du gouvernement d'être sûr que les structures sont en place pour les arrêter, pour les juger, et s'ils sont coupables, pour les mettre en prison. Ça, ce n'est pas la MONUC qui peut le faire, c'est la responsabilité du gouvernement.
Mais ne voyez-vous pas que le bilan de la lutte contre les violences sexuelles risque d'être toujours mince, de paraître toujours mince, tant qu'on ne soignera que les conséquences?
Non, parce que je crois quand même que ces violences sexuelles sont certainement le fait de l'absence de paix dans le pays. Et quand les mesures seront prises pour renforcer la paix, que les institutions seront plus performantes, je crois que ce phénomène de viol massif va disparaître. On ne pourra jamais dire que les viols en tant que tels vont complètement disparaître. Parce que même dans les pays où il n'y a pas la guerre, il y a toujours des viols. Le problème en RDC, c'est que ce sont des viols massifs. Et sans ces viols-là, il faut y mettre un terme.
Il y a cet auditeur qui nous écrit de l'Équateur, de la province de l'Équateur, Dalson Likambo, qui dit à Mademoiselle Mouloubaï, à qui incombe la responsabilité de ces viols collectifs de la population de la partie est du pays? Je pense qu'elle n'est ni congolaise ni onusienne, mais plutôt tire ses origines de la Deuxième République en laissant la porte ouverte aux armées étrangères qui perpétraient des actes d'atrocité envers la population.
Je ne saurais répondre à ça d'une façon historique, comme il l'a posé. Dans tous les cas, nous savons que souvent, les responsables de ces viols, ce sont des groupes armés. Et c'est reconnu que le viol aujourd'hui, en République démocratique du Congo, là où ces viols massifs sont causés, est utilisé comme arme de guerre pour déstabiliser les communautés, pour contrôler les communautés, etc. Donc, tant qu'on n'aura pas mis fin à ces guerres, quand on n'aura pas mis fin à l'existence de ces groupes armés,
on peut toujours s'attendre à vivre de telles situations puisque ces groupes armés utilisent le viol comme arme de guerre.
Alors, comme avant de donner la parole à Maître Kabongo pour vous permettre d'atteindre votre temps de parole, comment permettre à toutes ces populations de l'Est qui vous suivent en ce moment de s'assurer qu'ils peuvent dire plus jamais ce genre de viol massif?
Je crois que c'est un travail à long terme. Et c'est justement ce travail qui doit se faire en partenariat avec le gouvernement. Étant donné que nous, notre existence est limitée dans le temps, nous pensons que c'est en renforçant les capacités du gouvernement. Comme nous le disons, il faut étendre l'autorité de l'État partout. Parce que dans ces zones où nous assistons à ces viols, l'État n'est pas présent. Il faut que l'État soit présent. Et quand l'État est présent, il faut aussi que l'État soit là avec des institutions fortes pour appliquer la loi. Parce que c'est en appliquant la loi qu'on peut mettre fin à des crises.
Maître Kabongo, à vous également, ces populations qui vous suivent, que peuvent-elles attendre de la part du gouvernement pour qu'elles s'assurent qu'on ne vivra plus ce genre de cas?
Écoutez,
très brièvement, parce que nous sommes à tous en capacité.
Ces populations ne peuvent qu'attendre une certaine protection. Alors, je suis d'accord avec M. Madame Djamouba et quand il dit. Il faut renforcer les capacités du gouvernement. Oui, là, je suis d'accord. Il faut toujours renforcer les capacités du gouvernement. On renforce les capacités du gouvernement comment? C'est par une bonne coopération sur le terrain. C'est par une bonne communication entre le bureau des opérations humanitaires de l'Est de la République démocratique du Congo avec les éléments des forces armées congolaises qui sont sur place. Ici, nous déplorons un fait que le gouvernement déplore la non-circulation d'une information qui aurait pu permettre aux éléments aussi des forces nationales congolaises qui sont sur place d'intervenir. Imaginez-vous que le bureau des opérations humanitaires de la MONU a envoyé un email à toutes les agences onusiennes. L'email n'a pas été répercuté même à la partie congolaise, c'est-à-dire aux forces congolaises qui pouvaient intervenir.
Voilà.
C'est ce que déplore le gouvernement.
Il vous permet, parce qu'il n'existe pas un bureau des opérations des affaires humanitaires de la MONUSCO. Ça n'existe pas.
Voilà, l'émission va pratiquement toucher à sa fin. Madame Bernadette Mouongo, un mot en guise de conclusion.
Oui, je crois que quelque part la faute incombe à notre gouvernement, puisque le gouvernement ne veut pas améliorer la vie sociale. Il est très représenté partout, même dans les milieux reculés. Si c'est un acteur de viol qui est arrêté et il donne une prison de 10 dollars et il est libéré, c'est déjà rentré pour le gouvernement. Donc c'est ça. Donc c'est la vie sociale qui est d'abord le premier chantier du gouvernement.
Merci, Merci Madame Madnoy Djumoubaï. Un mot aussi en guise de conclusion.
En guise de conclusion, nous dirons d'abord que la question qui a été posée ici de savoir si nous aurions pu faire plus, nous l'acceptons, nous aurions pu faire plus. Et nous essayons aujourd'hui de faire plus. Nous essayons de voir comment améliorer notre capacité et notre réponse sur le terrain en vue de mieux assister la population civile, parce que c'est ça qui est au cœur de notre mandat.
Maître Kabongo, un mot, je vous en prie.
Nous disons tout simplement, nous voulons continuer avec ce partenariat avec la MONUSCO, mais nous devons aussi nous dire des vérités. Renforcer les capacités, c'est se dire des vérités. Mais la prochaine fois, nous disons que de telles erreurs, ça ne doit plus advenir, c'est inadmissible.
Merci, maître. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Guy Maté, Jean-Noël Mokondo, Bob Landou, Kevin Kouté, Samuel Kachak et Martin Sebouzangwe devant ce micro à l'aéro dans ce programme sur Radio Kabine.